Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Le message que Jackie allait amener cette semaine... Mercredi, je me disais qu'on a une responsabilité aussi, chacun de nous, par rapport à l'empreinte, par rapport au témoignage qu'on laisse sur Terre. Soit on laisse une empreinte avec les valeurs du monde, ou on laisse une empreinte avec les valeurs que Christ dépose dans nos vies. Puis, Jackie, elle a parlé du quand Christ reviendrait sur une nuée, venait nous chercher. Puis ça va être un moment qui va être hot. Ça va être un moment qui va être quelque chose quand on va voir Christ descendre, puis que les morts vont ressusciter, puis en tout cas, après ça, nous autres, on va monter, puis on va aller à sa rencontre. Puis ça va être un beau moment. J'ai hâte à ce jour-là. Mais ce jour-là, ça va être une autre chose aussi. Il y en a qui vont être contents de le rencontrer. Puis, quand je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on laissait comme empreinte sur Terre, je suis allé lire aussi, mes références, c'est dans 1 Thessaloniciens 4:15. Puis, je vais vous emmener et tout dans Matthieu 24, 43, 46. C'est celui qui travaille pour son maître. Puis, je voulais vous emmener comme réflexion que quand Christ va venir nous rechercher, là, il y en a, avez-vous déjà pris, vous êtes-vous déjà fait prendre en train de faire quelque chose que vous aviez pas besoin, que vous aviez pas à faire? Pareil comme un enfant qui est en train de voler des bonbons dans une armoire ou que juste avant Noël, il veut la maison à l'envers pour trouver les cadeaux de Noël qui sont cachés dans le garde-robe en haut, dans la chambre du père et de la mère. Puis quand la mère rentre, le petit est dans le garde-robe en train de déballer les cadeaux d'avance. Puis là, il est surpris, puis il sait qu'il n'y a pas affaire là, puis il est tout mal à l'aise, puis il sait qu'il va se faire chicaner. Ben, il y a un jour qui va être glorieux, où ce que Christ va venir nous rechercher, mais la journée qui va venir nous rechercher, le serviteur, qu'est-ce qu'il va être en train de faire? Il va être en train de faire quelque chose qui est contre le cœur de Dieu, ou il va être en train de suer les gouttes de son front qui vont dire, « Ah, yes, ça, t'es arrivé, je t'attendais, mais je travaillais pour toi, puis... » mes mains puis tout mon corps travaillait pour toi puis je t'attendais ou je vais être surpris puis je vais être en train de faire quelque chose qui était pas selon le cœur de Dieu. Puis moi, ça m'amène beaucoup à réfléchir parce que je vais vous dire que je suis pas toujours en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Mais pareil comme qui est écrit dans la Bible, de progrès en progrès. Toujours de marcher, puis toujours de s'améliorer de jour en jour. Même si on ne fait pas toujours ce que Dieu veut qu'on fasse, il y a toujours possibilité de se détourner de ça, puis d'y aller de progrès en progrès, puis d'y aller du bon bord. Puis à un moment donné, Dieu va nous perfectionner avec le temps. Mais je veux juste vous emmener à réfléchir au retour de Christ, puis vous emmener à réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire le jour où est-ce qu'il va revenir vous chercher. Est-ce que vos mains... puis votre front vont être en train de suer à son honneur, ou est-ce que vous allez être pris en train de faire quelque chose que vous ne deviez pas faire? Fait que je pense que ça peut nous garder chacun de nous autres à réfléchir à ces deux détails-là. Soit on va faire sa volonté, ou soit on va faire quelque chose qui n'était pas selon sa volonté. Fait que, en tout cas, si vous voulez m'en reparler plus tard, vous pouvez, mais moi j'avais 5 minutes. Fait que merci Père pour ces vérités. Merci pour la chance aussi que cette semaine je me suis assis puis j'ai ouvert ma Bible puis je suis allé lire puis ça m'a vraiment nourri, ça m'a fait du bien de me rappeler ces choses-là. Fait que je te prie pour que chacun de nous, Père, à ton retour, au retour de ton Fils sur les nuées, Père, ben qu'on soit en train de faire ta volonté sur terre et non la nôtre. Fait que merci pour ta parole puis merci pour notre église ce matin puis merci pour Pasteur Richard que j'ai vraiment content que tu sois là. Fait que merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Amen.
Bonjour tout le monde. En forme ce matin? En forme comme un petit dimanche matin du 22 novembre, hein? La neige qui s'en vient. Mais le Seigneur est là dans nos cœurs et on veut se réchauffer et s'encourager en lui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un certain plaisir à avoir raison? Hein? Il se crée en nous un sentiment de bien-être, on se sent bien, parfois même, excusez-moi, un petit chat, n'ayez crainte, je n'ai pas la COVID. Quand il faut pas, quand on se dit il faut pas que je tousse, psychologiquement, là j'ai toussé, je vais être correct. En dedans de nous, on peut pas s'empêcher de dire, hein, « Ah, je te l'avais dit ». Il existe le danger dans nos vies d'avoir la démangeaison d'avoir raison. Hein? C'est, dans ce temps-là, c'est les autres qui se trompent. Et ce matin, on va étudier l'histoire d'Achitophel. Et selon les internets, je vous présente Achitophel ici au centre. C'était l'image qu'il donnait d'Achitophel. Donc, j'ai dit, tiens, on va la mettre. Et lui... Il avait souvent raison. Et on peut même dire, et c'est très rare, on peut même dire qu'il avait toujours raison. Mais vous allez voir, ça lui a causé de graves problèmes de toujours avoir raison. Qui est Achitophel? Peut-être que vous le connaissez. Hein? C'est l'histoire qui est relatée, qui nous est dit dans 2 Samuel chapitre 16 et 17. Achitophel était le conseiller du roi David. Et c'était pas un homme avec un cœur droit, avec une grandeur d'âme, parce qu'il n'a pas hésité justement à trahir David quand David s'est retrouvé en difficulté. Absalom, le fils de David, s'est rebellé, a voulu prendre le trône. Il a même réussi un certain temps. Et Achitophel est allé du côté d'Absalom. Mais il avait un bon discernement, un excellent jugement. Il voyait clairement qu'Absalom, fils de David, gagnait la faveur du peuple et lui voulait se retrouver du côté du gagnant. De nos jours, Achitophel serait un excellent conseiller politique. Il serait associé au parti gagnant et aurait conseillé le chef du parti pour recevoir la gloire d'être le conseiller numéro un du premier ministre ou encore du président. On peut dire sans se tromper qu'Achitophel était un opportuniste. Il voulait pas mettre sa sagesse au profit d'une grande cause noble. Sa seule cause, c'était lui-même. Et dans notre passage, au verset 23, on parle de l'autorité d'Achitophel. Hein? Et le passage nous dit, « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. » Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Wow! Il y a peu d'hommes dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, de qui on peut dire ça. C'était un homme avec extrêmement d'autorité dû à son jugement, à son discernement d'un point de vue humain. Imaginez! Que tout ce qu'il disait, c'est comme si Dieu avait parlé. On agissait selon ce qu'il disait. Il savait analyser une situation, la comprendre et ensuite proposer la meilleure solution. Et à cause de ça, à cause de sa réputation, on agissait selon ce qu'il disait. On faisait toujours ce qu'il disait parce qu'on savait que c'était la même chose. Lui, il ne se trompait pas souvent. Il semble même que dans les conseils, qu'il ne se soit jamais trompé. Mais voici, on arrive dans une nouvelle situation. Je vais lire les versets 30 à 34. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel, ton conseiller numéro un, est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu. Voici, Hushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, on sait que dans le règne, vers la fin du règne de David, Absalom, son fils, a voulu faire une révolte. Hein? Il y a eu toute la chicane où David avait mis de côté Absalom, puis que là, Absalom, il voulait revenir. Il a fait brûler un champ, puis là, il y a eu une genre de réconciliation, mais qui n'en était pas une. Et tout à coup, Absalom se rebelle, veut mettre son père David en dehors, il veut prendre sa place. Donc, David est obligé de fuir. Et là, on voit une description de sa douleur, de sa détresse. Et quand David sait que Achitophel a décidé d'aller appuyer Absalom, il a tout de suite prié l'Éternel. Il a dit, « Oh non, Seigneur, hey, puisses-tu anéantir ses conseils? Puisses-tu pas faire que cet homme-là qui a tant de capacités humaines qu'il soit en train de me faire du tort puis de faire du tort à toi? » Et Hushaï, le vrai ami de David, rejoint David, puis il dit, écoute, moi, je ne veux pas aller avec Absalom. Je suis fidèle. Ben, il dit, regarde, tu vas être plus utile si tu vas combattre les conseils d'Achitophel. Au verset, si on va un petit peu plus loin, verset 16, on va le lire encore. Lorsqu'Hushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi, vive le roi! » Hein? Le cœur d'Hushaï était encore avec David, mais il savait qu'il aiderait David en allant voir Absalom et se dire, « Écoute, je vais t'être fidèle. » Et Absalom dit à Hushaï, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. » Il parlait de David, son père. « Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? » Hushaï répondit, c'était pas vrai, mais il a dit ça à Absalom qui l'a cru, « C'est que je veux être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, c'est avec lui que je veux rester. Je vais être du côté du gagnant, puis Dieu t'a choisi. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne serait-ce pas son fils comme j'ai servi ton père? Ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? » Hushaï se présente devant Absalom et dit, « À cette heure, je suis avec toi. J'ai lâché ton père, David. Moi, je suis avec celui que Dieu a choisi, puis je reconnais que Dieu t'a choisi. » Achitophel et Hushaï doivent consulter ensemble. On ne prendra pas juste le conseil d'Achitophel. On dit, parlez les deux, puis on va voir qui va avoir le meilleur conseil. À partir de ce moment-là, va s'engager un combat sans merci, une stratégie, une lutte entre Hushaï et Achitophel. Les deux solutions proposées, la solution proposée par Achitophel, vous pouvez lire si vous avez une Bible disponible, mais je vais vous faire un petit résumé. Achitophel, il y avait la bonne solution pour Absalom. Et la solution qu'il donnait, qu'il offrait, c'est on attaque tout de suite pendant que David et ses hommes sont fatigués, sont à bout de souffle, ils n'ont rien à manger, ils avancent pas vite, ils sont sous le choc de la rébellion. Puis la solution d'Achitophel, c'est tue seulement David, puis rallie tout le peuple derrière toi, puis il va te servir. Agir vite, frapper maintenant pour avoir une victoire complète. Et dans la situation, c'était la meilleure solution pour Absalom. Et il aurait gagné. Achitophel a dit sa solution, puis il dit, maintenant on va écouter celle du Chahi. Et, assez long à lire, là, il y a tout un beau texte que je vous encourage à lire peut-être cet après-midi. Mais en gros, il lui dit, non, 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 on connaît David. David, c'est un guerrier, hein? Ça dit, c'est comme un ours, là, tu sais, qu'on va attaquer, qui est dans ses retranchements. Il va nous attaquer, faut y aller stratégiquement. Donc, Hushaï dit, faut prendre le temps de s'organiser. Faut rassembler tout le peuple, préparer notre attaque. Puis ensuite, poursuivre David jusqu'à ce qu'on l'aille. Évidemment, Hushaï est en train de donner du temps pour se sauver, pour se ressaisir. Les raisons amenées, hein, David est brave et furieux, on le trouvera pas, il est caché quelque part dans des rochers, puis il est comme une ours privée de ses petits. David, c'est tout un combattant, même si on pense qu'il est faible, il est encore très fort. Et au verset 8, hein, la phrase tellement mortelle que Hushaï a dit pour qui attaquait Achitophel. Pour cette fois, c'est jamais arrivé, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et au verset 14, Absalom, avec son manque de discernement, qui dit le conseil d'Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné la chance à David de s'en aller, de fuir. Ils l'ont pas retrouvé. Puis David s'est ressaisi avec ses hommes et ils ont pu résister. Et on connaît la fin de l'histoire. Hein? Absalom est mort dans la révolte et David a repris le trône. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Toute cette histoire nous amène à voir la réaction de celui qui avait toujours raison. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Wow! Il n'était pas habitué, hein, de ne pas avoir raison, puis ça n'y a pas fait de ne pas avoir raison. Une réaction violente et radicale d'Achitophel qui n'a pas pu vivre avec le fait que son conseil, qui en fait était le bon, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été suivi et il se donne la mort. Imaginez l'impact que ça a eu sur Achitophel. Il était complètement démoli. Il n'a plus le goût de vivre parce que sa vie, c'était d'avoir raison. Une belle histoire hein, qui est vraiment arrivée, qui nous enseigne pour nous comment on réagit quand notre idée, notre solution, notre opinion n'est pas retenue, n'est pas considérée quand on se fait dire carrément ce que tu nous as dit là. Non, on te dit non à ça. On ne le retient pas, on ne pense pas que c'est intelligent, que c'est réfléchi. Et puis, non, on n'en veut pas de ton idée. Comment on réagit? Est-ce qu'on se retire du groupe? Si ce que je dis n'est pas considéré, bien, je m'en vais. On boude, on ne le dit pas, mais on boude dans notre coin. Puis, au fil du temps, les gens vont réaliser. Il me semble que tu es différent. Il me semble que tu n'as pas la même attitude. Ah, OK, sais-tu quand dans la réunion qu'on n'a pas pris ton idée? Eh bien, oui, on peut se sentir rejeté, trahi. On peut aussi répondre d'une manière agressive en attaquant ceux qui s'opposent à notre idée afin qu'ils cèdent puis qu'ils se rallient derrière nous. Si on ne prend pas notre idée, on peut partir en guerre et on est prêt à attaquer. Pourquoi le fait de ne pas avoir raison provoque tant de réactions? Il y a quelque chose qui est évident, qui est là juste devant nos yeux, hein? Et c'est parce qu'on est orgueilleux, hein? La définition de l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle au dépens de la considération due à autrui. L'orgueil, c'est de se croire meilleur que ce qu'on est en réalité et c'est de se croire supérieur aux autres. Donc, mon idée, ma conception des choses est meilleure que celle des autres. Et c'est là que, dans la parole, dans Philippiens, il est dit de ne pas avoir une opinion exagérée de nous, mais d'avoir un élan du cœur où on considère les autres comme supérieurs à nous. Et souvent, on ne le fait pas, mais juste qu'on considère les autres égales, de dire, écoute, moi, j'ai mon idée, mais lui aussi, il a l'Esprit de Dieu, puis lui aussi, c'est une personne intelligente, c'est un frère, c'est une sœur, puis son idée a autant de valeur et elle mérite autant d'être considérée. Donc, pourquoi ça provoque tant de réactions? À cause de notre orgueil qui est en nous. Aussi, parce que on associe nos conseils, nos idées, nos solutions à notre valeur personnelle en tant qu'individu. S'il rejette mon idée, c'est moi qu'il rejette en tant que personne. C'est vrai que dans un sens que nos idées reflètent notre personnalité, mais il est évident qu'on ne peut pas toujours avoir raison, puis on ne devrait pas chercher à avoir toujours raison. Hey, c'est lourd à porter, ça. Imagine de toujours penser qu'il ne faut pas que je me trompe, il faut que dans une situation qui change, qui varie, hein, avec la COVID, nos dirigeants qui sont à télévision presque à chaque jour ou qui donnent des bulletins là, pour donner la direction, hey, eux autres, ils vont un peu à tâtons, ils vont avec le mieux qu'ils peuvent, puis une journée avec les informations, ils disent on devrait aller vers là, puis après ça, ils ajustent un peu le tir, puis... Hey, ils ne peuvent pas avoir toujours raison. C'est la même chose dans nos vies. Donc, il faut dissocier notre opinion et nos idées personnelles de la valeur qu'on a en tant que personne. Si notre idée ne passe pas, ça ne veut pas dire que les gens ne t'aime pas, ne te considère pas ou ne t'apprécie pas. Il faut séparer nos idées de notre personne. Tout le monde a déjà et à plusieurs reprises eu tort. On peut juste se souvenir de dire, dans telle situation, j'ai dit, non, c'est ça qu'il faut faire. Puis, non, c'était pas la bonne chose à faire, mais je le savais pas parce qu'on connaît pas l'avenir. Tout le monde se trompe. On est humain, c'est normal. Puis, des fois, on se trompe en ayant les meilleures intentions du monde. Il faut séparer la capacité de jugement et de discernement de qui on est en tant que personne. Ne parlons pas aux gens avec tellement d'autorité, de fermeté, d'agressivité que les gens sentent qu'ils ont pas le choix de faire ce qu'on leur dit. Hein? Parfois, on est tellement convaincu, on veut tellement avoir raison que tu fais ce que je te dis, sinon tu vas sentir que c'est la guerre. La clé, c'est l'humilité. Être capable de dire son point de vue, donner son opinion, accepter que les autres vont faire des choix différents de ce qu'on propose, qui ont des idées différentes des miennes, qui peuvent être aussi valables et peut-être meilleures, et souvent c'est le temps qui va le révéler. Ceux qui ont toujours tout seul, ils sont seuls, sans relation intime, sans la confiance des autres. Si tu cherches à avoir toujours raison, sache que ça va te coûter très cher parce que tu vas être loin même de tes proches. Comme la force sans contrôle est plus néfaste que bénéfique, de même la connaissance et le discernement humain sans amour et sans humilité devient une arme dangereuse. Oui, tu as un bon jugement. Oui, tu sais comment tout analyser, puis voir, puis de dire, faites ça, allez vers là, prenez telle décision, telle action. Mais quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bonté, ça détruit plutôt que ça fait du bien. Lorsqu'une personne reçoit beaucoup d'honneur, de mérite, à cause de sa sagesse humaine, facilement ils tombent dans le piège de l'orgueil, de croire meilleur que tu l'es en réalité. La personne qui est comme ça tombe dans le piège de l'orgueil. Elle n'a plus cette dose d'humilité pour la réveiller un peu, dirait, réveille-toi là, pète ta bulle, là, t'es en train de t'élever, puis non, t'es pas si bon que ça, t'es dans des bonnes circonstances et tout. On peut appliquer la vérité qu'on voit dans cette histoire à plusieurs dons et capacités qu'on peut avoir. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des capacités, puis ça, c'est une bénédiction pour le corps, pour l'Église. Mais est-ce qu'on utilise nos dons pour s'élever ou pour les mettre au service du Seigneur? Si nos cœurs sont à Dieu, notre service va lui être agréable. On va avoir son approbation, puis on va la plupart du temps aussi avoir la reconnaissance de nos frères et sœurs, la reconnaissance de nos proches, pas parce qu'on est si intelligent, mais parce qu'on est humain, parce qu'on est rempli de l'amour de Jésus. Quand on a beaucoup de capacités, je crois que Dieu se plaît à mettre sur notre chemin des gens qui vont nous critiquer, qui vont s'opposer à nous, Et si on n'a jamais été habitué à ça, et peut-être qu'on ne fera pas comme notre ami Achitophel, mais on va avoir une réaction violente intérieurement. Comment est-ce qu'on veut réagir quand on est remis en question? Comme Achitophel en étant choqué, bouleversé, tout s'effondre, ou encore comme Marie qui répandait, Marie la sœur de Marc, qui répandait le parfum sur les pieds de Jésus, puis elle s'est fait dire, « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est du gaspille, ça ne sert à rien. » Elle a continué et elle n'a rien dû. C'est Jésus qui l'a défendu. Dans une société où les capacités semblent beaucoup plus valorisées que les attitudes de cœur, il est rafraîchissant de voir que Dieu ne pense pas comme ça. Et je sais que c'est une chose qu'on cherche à pratiquer dans l'Église, dans la famille spirituelle, dans le choix qu'on fait pour les différentes responsabilités. Que oui, les capacités intellectuelles, de connaissance, de discernement de la parole, c'est des belles qualités. Mais en même temps, que le Seigneur valorise tellement un cœur rempli d'amour et d'humilité. Si on a premièrement un tel cœur, les capacités de discernement qu'on peut développer vont être utiles et bénéfiques pour l'œuvre de Dieu. J'avais un ami dans une autre église, il y a de ça assez longtemps, que j'appréciais énormément et que j'apprécie encore toujours. Et il avait vraiment de belles qualités de cœur face à moi. Ça a été quelqu'un de très proche quand j'étais en contact. Et aussi, il avait des belles qualités de cœur face aux gens en besoin. Il était quelqu'un qu'on appréciait, qu'on sollicitait l'écoute, il y avait une grande écoute, énormément de compassion. Mais au fil du temps, il y avait un défaut qui me venait tout le temps. Quand il était dans des réunions, là, réunions du conseil, des réunions où on était 8, 10, 12 personnes, et qu'un membre de la réunion donnait son avis, il y avait une réponse automatique qui, à chaque fois, me faisait sonner là, dans les oreilles. Ça me résonnait. « Oh non, dis pas ça, réponds pas comme ça. » Il y avait une phrase qui revenait tout le temps, c'est celle qui est là. « Je suis pas d'accord avec toi. » La personne parle, aussitôt qu'elle a un peu fini. « Je suis pas d'accord avec toi. » Ça voulait dire, à mon avis, tu n'as pas raison. Puis moi, j'ai une meilleure idée de la situation, j'ai une meilleure solution, une meilleure perspective. Et lorsque les gens lui disaient que son idée n'était pas bonne, aussi, ça venait autant le chercher. Et ça mettait toujours le groupe dans une tension. Là. Quelqu'un librement dit comment il voit ça, puis « je ne suis pas d'accord avec toi ». Est-ce qu'on veut combattre les idées? Est-ce qu'on veut s'opposer aux gens de dire « Non, ce que tu dis, c'est pas bon. » Au niveau des reproches, on veut évidemment ne pas être une personne qui adresse facilement des reproches aux autres. On sait comment les reproches peuvent faire du tort, peuvent blesser. Des accusations, des remontrances, hein, c'est dur à recevoir, surtout quand c'est pas justifié. Donc, d'un côté, on ne veut pas être ce genre de personne qui a l'habitude de faire des reproches aux autres. Mais d'un autre côté, il faut être capable de recevoir des reproches sans trop réagir. Sans se sentir démoli, anéanti. On doit être capable de prendre avec un grain de sel les propos des gens, que les gens disent de nous et disent à nous, ou les gens nous font sentir que on n'a pas raison. Hein? J'aime toujours dans Ecclésiaste, je pense, chapitre 7, là, vers la fin du chapitre, ça dit « Ne prends pas garde, prends pas trop au sérieux les propos que tu peux entendre dire de toi, parce que tu vas même entendre ton serviteur te maudire, sachant que bien des fois, toi, tu as maudit les autres. » Autrement dit, ça veut dire si ça t'arrive de parler mal des gens, fait que si tu entends que quelqu'un dit des mauvaises choses de toi, écoute, vire-toi pas trop à l'envers. Oui, ça peut nous attrister, ça peut nous décevoir, mais regarde, prends, on a besoin d'apprendre à prendre ça avec un grain de sel, comme on dit en bon québécois, de le prendre du bon côté, puis de ne pas donner à une offense qui est grosse comme ça une importance démesurée. Qui nous sommes et ce que nous faisons n'est pas à la merci de tous ceux qui nous entourent et qui peuvent porter un jugement négatif. Et si le jugement est négatif, est-ce que notre monde s'effondre? Ça ne devrait pas. S'il y a 4 personnes à qui je parle de mon avis, de mon projet, puis qu'il y en a une qui fait des reproches, est-ce qu'on est détruit? On ne devrait pas. On a besoin d'une protection contre les reproches. On a besoin de lâcher du lousse, d'abandonner l'idée ou l'idéalisme de toujours avoir raison, puis que les gens disent qu'on a toujours raison. Ça, c'est impossible. Et la semaine dernière, personnellement, j'ai vécu une situation où des proches m'ont fait des reproches sur une situation, sur une décision que j'avais prise, et j'en ai été profondément affecté, là. Vraiment, j'ai été ébranlé, j'ai été bouleversé, j'ai pleuré, j'ai été 2-3 jours, là, comme knock-out, là, d'un coup que j'avais reçu. J'en ai vraiment été affecté. Et quand la poussière a tombé, là, au bout, après 3-4 jours, j'ai réalisé que j'avais besoin que ces gens-là disent que j'avais raison et que je ne l'avais pas eu et que mon ego avait été touché. Et c'est normal jusqu'à un certain point, mais j'ai aussi réalisé que je donnais trop d'importance et que j'avais pas raison d'être aussi bouleversé. Parfois, les reproches ont plus d'impact parce qu'on a nous-mêmes des doutes cachés. Et la personne qui vient nous dire qu'on n'a pas raison, puis qu'on s'est trompé, puis que c'est une mauvaise chose qu'on a faite, ils viennent déterrer, ils viennent gratter, puis ça fait ressortir nos propres doutes. On a besoin d'avoir la protection, une certaine protection face aux reproches, face aux accusations qu'on n'a pas fait la bonne chose. Ça fait partie de la vie. Les gens sont là. Parfois, les gens qui vont vous dire ça très durement, crûment, puis que ça vous affecte, eux, 2 heures après, eux, ils continuent leur vie. Ils oublient même qu'ils vous ont dit ça. Ils ont juste dit leur idée, puis ils vous l'ont dit, puis ils passent à d'autres choses. On a besoin d'une protection, un refuge auprès du Seigneur, où, Seigneur, tu sais que je ne suis pas parfait, je ne suis pas comme toi, je ne connais pas toutes choses, et j'ai pris une décision quand il le fallait au meilleur de mes capacités, avec la bonne attitude. Compétences. Nous avons tous des valeurs, hein, des qualités personnelles, des aptitudes qu'on chérit, qui sont très importantes personnellement. Et moi, je disais, hey Richard, c'est quoi toi, en écrivant le message, c'est quoi toi tes valeurs, là? Puis là, je me suis dit, hey, d'avoir de la considération pour l'autre, hein, quand on pense à Romains 12-10, qui est une de mes expressions préférées du Nouveau Testament par rapport à ça, d'avoir de la prévenance réciproque. Donc, pour moi, je réalisais que une des plus grandes valeurs que je pouvais avoir, c'était de se soucier des gens, de les encourager, d'en prendre soin, puis d'éviter de les blesser. Et ça, c'est normal. Il ne faut pas que dans l'Église, qu'on soit tous des Richards avec cette valeur-là comme valeur la plus importante, parce qu'on aurait juste des mains et on a besoin de toutes sortes de membres avec des qualités différentes. Et pour d'autres, c'est la compétence. Et c'est merveilleux. Savoir et connaître. Savoir faire, savoir exécuter. Avoir de l'expertise dans un domaine. Et quand notre valeur numéro un qu'on cherche à développer et qu'on veut utiliser, c'est la compétence, avec ça, il y a la reconnaissance de notre compétence. Et lorsqu'on a travaillé fort pour développer ses connaissances au fil des années, ses habiletés, on veut que les autres le reconnaissent et nous respectent pour cela. Ça devient un peu une petite gloire, ça devient notre fierté et ça peut être aussi une petite idole. Et si quelqu'un vient puis nous attaque là où on pense qu'on est à notre meilleur, bien, il donne un petit coup sur notre idole qui tombe de son piédestal, qui tombe à terre puis que ça casse en morceaux. Notre monde s'effondre. Contrairement à ce que le monde nous dit, nous ne sommes pas ce que nous pouvons accomplir. Ça, c'est une vaine gloire, mais on regarde ceux qui sont partout élevés, de dire c'est tellement une grande personne, c'est soit que c'est un chanteur qui a eu des grands succès à la Céline Dion, ou encore tu as été un sportif, un Maurice Richard, ou soit que tu es dans le domaine des affaires, que tu as monté une business, pour dire « wow, tu es vraiment une personne exceptionnelle », il faut que tu aies accompli quelque chose. Tellement vain. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous dit que c'est pas comme ça que ça marche, parce que nos accomplissements humains, ceux qui ont fait des grandes affaires et qui ont des milliards, souvent, ils ont exploité tellement de gens pour se mettre des milliards dans leur poche que c'est pas très glorieux quand on regarde en dessous. On vit une situation exceptionnelle au niveau historique, hein, qui est une situation de tension et de fragilité à cause de la COVID. Et selon nos circonstances, nos limites, nos obstacles, on peut être plus sensible. On peut être fragile et on peut être plus susceptible, sujet d'être atteint et blessé profondément. On n'est pas, la plupart, 95% des gens, on n'est pas dans une situation normale, dans notre état normal. Et j'aimerais vous enlever un lourd fardeau sur les épaules. Vous n'avez pas besoin à tout prix de l'approbation des gens. Et si certains ne sont pas d'accord avec vous, c'est correct. Si des gens vous pointent et vous font des remarques en vous disant que vous n'avez pas raison, puis vous n'avez pas eu raison de dire ça, de prendre telle décision, d'aller dans telle direction, vous savez quoi? C'est correct. Vous savez, chacun de vous, ce que vous vivez personnellement. Vous connaissez vos contraintes, les choses que vous devez tenir compte. Et avec tout cela, vous prenez les meilleures décisions possibles. Et vous faites de votre mieux. Et il y en a un. Il y en a un seul qui connaît toutes choses. Et lui, il ne vous fait pas de reproches. Jésus. Jésus sait quand vous vous confiez en lui. Jésus sait quand vous venez à lui les mains vides en disant, « Jésus, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Veux-tu m'aider? » Jésus sait quand vous avez comme appui sa parole de dire, c'est quoi les vérités, les enseignements qui ressortent de ta parole qui peut m'aider dans ce que je vis pour prendre une décision? Et c'est à lui qu'on veut chercher à plaire. C'est son approbation qu'on veut rechercher, qu'on doit désirer. Et cette approbation-là ne passera jamais par notre compétence, par nos connaissances, par notre jugement, par nos accomplissements. Jésus n'est pas impressionné par ces choses-là. Donc, ce que je vous souhaite et que je vous encourage, c'est vous pouvez vous détendre un peu. Il y a assez de tension qui est là sur nous. On peut se détendre, lâcher prise et faire un beau sourire aux gens qui nous disent qu'on n'a pas raison et qu'on n'a pas été correct. Parce qu'il y en a un qui nous fait un beau sourire qui dit, je suis avec toi, vas-y, continue, fais ton mieux. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci que tu es doux et humble de cœur. Et qu'auprès de toi, en prenant ton joug, en suivant tes instructions, tu nous dis qu'on peut trouver le repos pour nos âmes. Oui, Seigneur Jésus, en ces temps historiques, en ces temps difficiles, on veut trouver le repos pour nos cœurs, pour nos âmes en toi. Seigneur Jésus, merci que on est sous le règne de la grâce. On n'a pas à être parfait, on n'a pas à prendre toujours les bonnes décisions. Seigneur, enlève dans nos cœurs cette recherche d'un perfectionniste où on est les meilleurs, où on cherche à toujours faire exactement ce qui est bien. Seigneur, on veut reconnaître devant toi qu'on est des êtres humains, on est des brebis et qu'on a besoin d'un berger, qu'on est des enfants puis qu'on a besoin d'un Père céleste parce qu'on n'a pas en nous tout ce qu'il faut. On veut venir à toi avec humilité, en reconnaissant notre incompétence. Et merci, Seigneur, parce que tu nous aimes comme ça. Seigneur, délivre-nous de ce désir humain d'avoir raison. On n'a pas besoin d'avoir toujours raison parce que c'est toi qui es la vérité. Puis on veut venir à toi avec humilité. Merci Jésus d'être là et de nous accompagner. Accompagne chacune des personnes qui est ici physiquement, chacune des personnes qui est avec nous par Internet, Seigneur. Touche les cœurs, réponds aux besoins de chacun. On te le prie en ton nom. Amen.
C'est un très bon message.
Merci.